8h01 sur Europe 1, bon réveil.
Dès la première dose, on arrive à observer une réduction de la transmission de 75% environ par rapport aux personnes qui ne sont pas vaccinées.
Des raisons d'être optimiste avec cette étude britannique, les vaccins bloqueraient bel et bien la transmission du virus. Joe Biden, devant le Congrès américain, il veut que les plus riches mettent la main au portefeuille pour aider la relance. La mauvaise affaire du PSG, battu 2-1 en demi-finale de la Ligue des Champions, mais rien n'est perdu, match retour mardi. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, l'ambassadeur turc en France, Ali Önöner. Il vient de prendre ses fonctions. Soupçon d'ingérence turque, islam politique et reconnaissance du génocide arménien. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec Chloé Triomphe. Bonjour Chloé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et si la vaccination, en plus d'empêcher les formes graves du Covid, bloquait aussi la transmission du virus ? De quoi redonner un peu d'optimisme, d'autant que ce résultat prometteur d'une étude britannique a été mené sur un large panel, Victor Dolande.
Oui, l'agence publique de santé anglaise a lancé une vaste étude sur près de 57 000 personnes appartenant à 24 000 ménages où un membre du foyer vacciné a été testé positif. Et ces personnes n'avaient reçu qu'une seule dose du vaccin AstraZeneca ou Pfizer. On les a ensuite comparés à un groupe d'un million de personnes non vaccinées. Résultat, 3 semaines après l'injection, les personnes vaccinées ont 50% de risque en moins de contaminer un proche par rapport aux personnes non vaccinées. Des chiffres très intéressants pour Morgan Bomsel, immunologiste à l'Institut Cochin.
C'est une excellente nouvelle, d'autant plus que c'est des chiffres qui sont aussi observés en Israël et dans d'autres études, où en fait, dès la première dose, on arrive à observer une réduction de la transmission de 75% environ par rapport aux personnes qui ne sont pas vaccinées.
Selon les scientifiques, le risque de transmettre la maladie devrait encore baisser avec la seconde dose. Et donc de manière mathématique, comme on l'a déjà observé chez les résidents d'EHPAD vaccinés en très grande majorité, plus la vaccination va gagner du terrain et plus la courbe des contaminations, elle, va diminuer.
Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe 1. En France, 15 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid. 6 millions ont reçu leurs 2 doses.
100 jours après son accession au pouvoir, Joe Biden s'est adressé aux Américains devant le Congrès.
Le président a détaillé son programme axé sur la création d'emplois, la réduction des inégalités, l'accès à l'éducation et la contribution des plus riches. C'est le moment pour l'Amérique des entreprises et pour les 1% de citoyens les plus riches de commencer à payer leur part. Je ne veux punir personne, mais je n'augmenterai pas la pression sur la classe moyenne. Elle a déjà trop payé. C'est possible de devenir milliardaire, mais il faudra payer votre part.
En France, 7 anciens militants italiens d'extrême-gauche ont été interpellés hier à la demande de l'Italie.
La justice française devra décider si elle autorise l'extradition de ces anciens membres des Brigades Rouges, mouvement armé de l'extrême-gauche italienne. Tous ont été condamnés en Italie pour des actes terroristes. Cela fait des années que les associations de victimes attendent leur extradition.
Bonjour Justin Morin.
Bonjour.
C'est une évolution majeure sur ce dossier parce que ça fait des années que l'Italie réclame ces arrestations à la France.
Oui, et ça a agacé particulièrement le pouvoir italien parce qu'on sait où se trouve ces personnes, on sait qu'elles ont refait leur vie ici en France. Je peux vous citer l'exemple de Narciso Manenti, 63 ans, qui a atterri dans le Loiret. Il était à la tête d'une entreprise de service qui porte même son nom, rien à voir avec une vie de fugitif, alors qu'il a été condamné à la perpétuité en Italie pour le meurtre d'un gendarme.
Comment se fait-il que le président Emmanuel Macron ait pris la décision très symbolique de valider ces arrestations ?
Alors l'Élysée fait savoir qu'il était temps de mettre un terme à une forme de complaisance, d'autant plus dans le contexte terroriste actuel. Mais c'est dit non, c'est aussi un compromis pour clore une bonne fois pour toutes ce vieux litige diplomatique lié à ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand. Alors c'est quoi ? L'ancien président socialiste avait accepté d'accueillir les militants d'extrême-gauche italiens à condition qu'ils n'aient pas commis de crime de sang, mais son interprétation a varié et finalement, même ceux condamnés pour meurtre ont été protégés.
Pendant les années de plomb, les attentats ont fait 370 morts et plus de 1000 blessés. On va retrouver Blandine Hugonnet à Rome. Blandine, vous avez retrouvé l'un des survivants de ces années terribles.
Et oui, Roberto de la Rocca est marqué à vie dans sa chair par les attaques des années de plomb. Ses blessures datent de l'année 1980. Alors accompagné de sa femme dans les rues de Gênes, ce jeune chef du personnel d'une grande entreprise est pris pour cible par 2 individus des Brigades Rouges, armés et au visage masqué. Il lui tire plusieurs balles dans les jambes et le blesse très grièvement. Depuis, Roberto mène un combat pour la justice, aujourd'hui à la tête de l'association des victimes. Alors cette collaboration de la France pour arrêter hier ces Italiens qu'il appelle terroristes, ça adoucit un peu, une blessure encore vive, 40 ans après.
Pour nous qui avons subi ces atrocités, finalement, après des dizaines d'années, justice sera enfin faite en Italie, contre ceux qui ont tué et blessé. L'État français a créé ce système de protection des assassins, mais il semble que la France a maintenant à notre égard une sensibilité qui n'avait jamais existé avant.
Mais ce survivant de 73 ans reste prudent. Il craint qu'avec le délai de prescription, certains de ces condamnés italiens échappent à la prison et mènent finalement une vie paisible, une fois renvoyés ici, en Italie.
Alors nous sommes 40 ans après les faits. Petite question qui n'est pas un détail, Justin Morin, quid de la prescription ?
Eh bien c'est aussi ce qui a accéléré la décision d'Emmanuel Macron. Certains faits allaient être prescrits, mais les 10 personnes visées devront bien purger leur peine en Italie. Alors on n'y est pas encore. Hein. Maintenant, la justice française doit examiner ces demandes d'extradition au cas par cas. Il y a des recours possibles. Ça peut prendre entre 2 et 3 ans.
Un dossier signé ce matin, Justin Morin du service police-justice et Blandine Hugonnet, notre correspondante en Italie.
Europe 1, il est 8h07. Les élections départementales et régionales se profilent et certains candidats cherchent des soutiens au-delà de leur parti.
Et c'est le cas de Renaud Muselier, candidat à sa propre succession en PACA.
Je sais qu'il existe des compétences dans la majorité présidentielle. Je veux fabriquer la meilleure équipe pour la région et nous choisirons ensemble les meilleurs d'où qu'ils viennent.
Renaud Muselier au micro de Stéphane Frangy. Résultat, chez les Républicains, eh bien les nerfs sont à vif. Explication Aurélie Herbemont.
Christian Jacob est écartelé, diagnostic un ténor LR. Si le patron du parti est hostile au flirt avec la Macronie, Renaud Muselier est aussi un de ses meilleurs amis depuis l'époque des bébés Chirac. Lundi, la commission d'investiture risque d'être tendue. Éric Ciotti la préside et il est le premier opposant à tout accord avec des marcheurs. Beaucoup espèrent de la fermeté de la part de Christian Jacob. Il rappellera qu'il ne peut pas y avoir de ministre avec nous, assure un proche. Problème, Renaud Muselier va faire durer le suspense. Il ne déposera sa liste que le 17 mai. Il va nous la faire à l'envers, peste un cadre. Un moment d'autant plus périlleux pour LR qu'en Bourgogne-Franche-Comté, le candidat Gilles Platret fait alliance avec Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan que Marine Le Pen avait présenté en 2017 comme son futur Premier ministre. Comme quoi LR peut aussi faire du en même temps, mais le risque du grand écart... c'est le claquage.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Les élections sont prévues les 20 et 27 juin. Et à noter que les assesseurs des bureaux de vote pourront bénéficier d'une injection de vaccins en priorité et quel que soit leur âge, fait savoir le ministère de l'Intérieur.
Et donc la déception ce matin pour le Paris Saint-Germain qui a fait une mauvaise opération hier soir, battu 2-1 par Manchester City.
C'était la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Tout allait plutôt bien avec l'ouverture du score par Marquinhos à la 15e minute, mais les joueurs se sont effondrés en seconde période. Julien Froment, il va falloir remonter la pente maintenant.
Oui, et si on se fie aux statistiques, eh bien c'est quasiment mission impossible pour le Paris Saint-Germain avec cette défaite 2-1 à domicile. Le club a seulement 7% de chances de qualification. Il faudra en plus gagner avec 2 buts d'écart, mais les motifs d'espoir sont tout de même nombreux pour l'entraîneur Mauricio Pochettino, car cette saison, le Paris Saint-Germain collectionne les exploits européens loin du Parc des Princes, à Old Trafford contre Manchester United, au Camp Nou du FC Barcelone ou encore à l'Allianz Arena du Bayern Munich, à chaque fois en plus avec 3 buts marqués. Enfin, les deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, passés à côté de leur match hier soir, ont une dette envers les supporters. Le Brésilien, qui a pour habitude de dire 1% de chance, 99% de fois, eh bien, mardi prochain, ce sera 7% de chance et 93% de fois pour le Paris Saint-Germain.
C'est noté, merci Julien Froment.
Faire des maths, bon. Mais on va gagner ou pas,
Julien ? Faisons ça.
Dans 7 cas sur 100. Merci voilà. Julien. C'est un fromage d'un nouveau genre qui fait une apparition timide sur le marché.
Oui, celui dont on vous parle ce matin est un petit peu spécial. Il est vegan. Les industriels investissent prudemment le créneau. C'est le cas de Bell. C'est le producteur de la vache qui rit. Quand on sait que la France compte plus de 1000 variétés de fromage, eh bien ce petit dernier 100% végétal peine encore à trouver sa place. Écoutez le reportage de Pierre Herbulot.
Derrière sa vitrine remplie de comtés plus ou moins affinés, de petits chèvres frais, des pois coulants, Marie découvre un peu inquiète cette spécialité végétale.
Ça n'a pas d'odeur, la couleur pas terrible non plus.
C'est un goût de sel,
c'est pas bon.
Froncement accentué des sourcils de la fromagère, ce simili camembert fabriqué avec du lait d'amande et des noix de cajou ne lui fera pas concurrence.
Non, ça c'est pas un produit qui me fera peur, même s'il y a une boutique qui ouvre à côté. Je pense que si je ramène ça à mes clients, ils vont me dire, mais Marie... Il y a un problème là.
Démonstration.
Alors on va vous faire goûter le bleu. Il y a un petit goût d'amertume.
Je préfère rester au fromage de base.
Bon courage avec tout ça. Non mais je comprends en même temps la démarche. Il faut tout pour faire un monde.
Aucune chance de conquérir le cœur des habitants du pays du fromage. Béatrice Denoret, la directrice générale du groupe Bel, en a conscience.
On a des régimes alimentaires de plus en plus diversifiés.
La cible, ce sont justement ceux qui ont décidé d'arrêter les produits d'origine animale.
Dans une famille française sur trois, au moins une personne qui se déclare flexitarienne. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un peu de mettre notre savoir-faire fromager au service de spécialités végétales qui représentent des alternatives au fromage.
Raisonnable, la marque n'espère séduire qu'un Français sur 20 d'ici 5 ans.
Reportage Pierre Herbulot.
Vous signez-vous, Chloé Triomphe? Attendez, parce qu'on
Joker.
Le fromage végétal.
Direction l'espace, les Chinois viennent de lancer le premier élément de leur future station et on en profite pour rendre hommage au troisième homme de la mission, Apollo 11, il s'appelait Michael Collins, il est décédé d'un cancer à l'âge de 90 ans. Sachez qu'il est resté aux commandes pendant que Armstrong et Aldrin, posaient leur premier pas sur la Lune.
Merci beaucoup Chloé Triomphe, c'est le journal de 8h, le pauvre qui n'avait pas pu marcher sur la Lune, Michael Collins, on lui rend hommage ce matin. 8h12 sur Europe 1 dans un instant, Sonia Mabrouk et son invité, l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner, à tout de suite.